Radio Prague, les informations.
Selon le chef de gouvernement, la Tchéquie n'adoptera l'euro que dans 8 à 10 ans. Le roi de Suède en République tchèque à la tête d'une mission technologique. L'exposition à Prague des 20 tableaux de l'épopée slave ouverte au public. Selon le premier ministre tchèque Petr Nečas, la République tchèque n'adoptera l'euro qu'au bout d'une période de 8 à 10 ans. Le chef du gouvernement tchèque a laissé échapper cette information lors d'un débat dans la Chambre des députés sur le Fonds européen de stabilité financière. Il voulait démentir par cette information la rumeur selon laquelle l'accord avec la création du mécanisme de stabilisation européenne entraînerait de nouveaux engagements financiers pour la République tchèque. Le roi de Suède se trouve en Tchéquie où il effectue une visite de 3 jours. Karl XVI Gustav est à la tête d'une mission de l'Académie royale des sciences de l'ingénieur, composée de représentants de l'industrie, des autorités et des universités suédoises. Son objectif à Prague jusqu'à vendredi sera de discuter, par exemple, des possibilités de collaboration dans les technologies de l'information et de la communication ou dans le domaine médical. Chaque année, la mission suédoise se concentre sur un pays différent. L'exposition de l'épopée slave, œuvre monumentale du peintre tchèque Alphonse Mucha, sera ouverte au public à partir de ce jeudi au Palais des Foires à Prague. Cette ouverture fera suite à sa présentation officielle ce mercredi. Déménagé de Moravski Krumlov, où les 20 tableaux retraçant l'histoire des peuples slaves sont restés exposés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à l'année dernière, l'épopée slave revient ainsi à l'endroit où elle avait été présentée pour la première fois au public en 1928. L'adhésion à l'Union européenne a profité à la République tchèque, notamment dans le domaine de la défense et de l'écologie. Par contre, dans la politique et dans l'économie, elle a été plutôt nuisible. Les Tchèques se montrent assez réticents vis-à-vis de l'unification des réglementations relatives à la politique budgétaire et fiscale et à la monnaie européenne. Tels sont les résultats d'une enquête réalisée par le Centre pour les sondages d'opinion, CVVM. 66% des personnes interrogées ont qualifié de positive l'unification européenne dans le secteur de la défense et 63% dans l'environnement. Par contre, 62% considèrent comme négative l'unification monétaire. La Chambre des députés tchèques a adopté une loi sur une modification de la frontière entre la Tchéquie et l'Autriche. La modification concerne un terrain de 24 hectares sur les rives de la rivière Dyje, dans le sud-est de la République tchèque. Météo, c'est un temps variable avec quelques pluies locales qui règnent sur la majeure partie du territoire tchèque ce mercredi. Les températures ont varié dans la journée entre 20 et 24 degrés pour les maximales. Jeudi, le temps en République tchèque sera clair à presque clair. Les températures maximales se situeront entre 24 et 28 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter qui cède maintenant le micro à Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, merci à Václav Richter pour son bulletin d'information et bienvenue dans cette nouvelle émission sur Radio Prague. Lidice, c'est Oradour sur Glane en Tchécoslovaquie. Ce village a été entièrement détruit par les nazis il y a 70 ans. Un projet sonore est lancé cette semaine au mémorial sur les lieux de la tragédie. Art ensuite avec l'exposition « L'art vers la liberté » qui vient de s'ouvrir au centre de Prague. Tout ceci ce sera avant de passer à la rubrique historique de la semaine. Bonne écoute de ce programme. Le 10 juin prochain, la République tchèque s'apprête à commémorer le 70e anniversaire du massacre de Lidice. Cette semaine, l'association Sonosfera Audiodrama, en partenariat avec l'Institut d'études des régimes totalitaires, présente au public son travail de reconstitution de l'atmosphère du village avant la tragédie. Un projet qui n'est pas sans générer quelques remous dans la presse en raison du soutien financier et symbolique d'un partenaire encombrant le bureau pragois des Allemands Sudètes. Les détails avec Paul Bauer.
Bientôt 70 ans qu'a eu lieu la tragédie de Lidice. Le 10 mai 1942, tous les hommes et les enfants mâles de ce village, situé à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Prague, ont été massacrés par les autorités nazies. Le village avait été intégralement détruit et rayé de la carte. Un massacre ordonné par les autorités du Troisième Reich en réponse à l'attentat perpétré par des parachutistes de l'armée tchécoslovaque qui avait coûté la vie à Reinhard Heydrich, proche de Himmler et chef du protectorat de Bohême et de Moravie. Chaque année, depuis la libération, la République tchèque commémore cet épisode tragique de son histoire. Le 10 juin 1945, le gouvernement tchécoslovaque avait promis la reconstruction d'un nouveau Lidice à quelques centaines de mètres de l'ancien village. Un mémorial a été érigé sur les lieux du massacre en souvenir des victimes. Cette année, l'association Sonosfera Audiodrama, en partenariat avec l'Institut d'études des régimes totalitaires, propose à partir du 10 mai aux visiteurs du mémorial de Lidice une expérience inédite avec l'histoire tragique du village. Ils pourront effectuer la visite des collines vides du mémorial où se trouvait l'ancien village de Lidice en écoutant, à l'aide d'écouteurs et d'un téléphone portable, un documentaire audio dans lequel se trouvent des extraits d'entretiens réalisés avec des témoins vivants de la tragédie ainsi que des montages fictifs reproduisant l'atmosphère sonore de la vie quotidienne du village avant le massacre des populations et sa destruction totale. Wilhelm Faltink, dramaturge, est l'un des initiateurs de ce projet d'un genre nouveau intitulé Lidice. 2012, le retentissement, on l'écoute.
Avec mes collègues et les membres de l'association, nous avons commencé à prendre conscience du fait que dans l'histoire de Lidice, durant le communisme, une partie de la population du village avait été effacée. Il ne restait que la vision officielle qui mettait en avant l'adoration des victimes innocentes, mais pas les gens réels de cette disparition. Nous étions désolés de cette situation et nous avons pris conscience que la réalité était beaucoup plus variée.
Začali jsme si uvědomovat, že ta realita byla vlastně velmi pestrá.
Teresa Semotamova est l'une des auteurs du documentaire audio. C'est elle qui a écrit les reconstitutions de la vie quotidienne du village de Lidice.
Cílem pro mě bylo ukázat, že historie 20.
Pour moi, l'objectif était de montrer que l'histoire du XXe siècle peut être très bien connue à partir du destin de personnes concrètes. J'ai donc essayé de montrer des lieux concrets de la vie des individus, non seulement les maisons, mais les lieux classiques de la vie villageoise, comme sont les auberges, les écoles, les églises, les commerces, les cimetières, pour montrer ce qui s'y est déroulé.
Hřbitov, ukázat, co se tam asi odehrávalo.
Les auteurs du projet ont cherché à reconstruire l'atmosphère sonore des lieux pour mieux comprendre le passé. Une polémique est née toutefois du projet après que le responsable du mémorial de Lidice, Miloš Červencel, a demandé au responsable du projet de rendre le don du bureau pragois des Allemands Sudètes, une somme symbolique s'élevant à 8000 couronnes, environ 350 euros, mais qui relance le débat sur l'absence d'excuses officielles de la part de l'Allemagne sur cet épisode noir de l'histoire commune germano-tchèque. Pour le prêtre et théologien Tomáš Halík, le refus du don du bureau pragois des Allemands Sudètes est un acte qui rappelle la gestion communiste du passé de Lidice. Au-delà de la dimension politique de la polémique, le projet soulève plusieurs interrogations quant à la méthode et aux résultats escomptés. S'il entend offrir aux visiteurs un aperçu dépolitisé de la gestion de ce passé douloureux, le documentaire audio entend jouer sur les émotions des visiteurs. On peut légitimement se demander si cette méthode est un accès pertinent vers la connaissance et la compréhension des tragédies du passé.
L'art vers la liberté, Uměním ke svobodě, tel est le titre de l'exposition qui vient de s'ouvrir à la maison à la cloche de pierre à Prague. L'exposition a été préparée par les enfants des foyers sociaux dans les ateliers artistiques de l'association Odabiak. Plus de détails avec Václav Richter.
Odabiak est une association à but non lucratif qui se propose de motiver et d'inspirer les enfants qui vivent sans famille. Elle a été fondée en 2001 par Jiří Valt et sa femme Radana Valdová, qui désiraient aider les enfants vivants pour diverses raisons dans des établissements sociaux. Actuellement, 20 000 enfants environ vivent dans ces établissements en République tchèque. En été, l'association organise des séjours pour ces enfants dans des endroits possédant une atmosphère inimitable et très personnelle où les petits participants peuvent rencontrer des artistes et collaborer avec eux. L'exposition « L'art vers la liberté » est le fruit d'une telle collaboration. La directrice du projet, Aneta Marková, explique pourquoi l'association s'appelle Odabiak.
Radana Valdová et Jiří Valt ont longtemps cherché un endroit qui pourrait devenir une source d'inspiration pour ce projet et qui aurait une atmosphère favorable au développement de la créativité et des arts. Ils ont trouvé un tel endroit en Provence, dans un petit village qui s'appelle Odabiak, et c'est le nom qu'ils ont donné aussi à leur association.
Na počest vlastně tohoto místa i dali název tomuto združení.
En organisant ces rencontres entre enfants et artistes, l'association cherche à aider les petits participants à développer leur créativité, à s'émanciper et à se libérer. Tous les ans, les artistes proposent dans le centre de l'association à Audabiac des ateliers où les enfants ont la possibilité de choisir librement leurs activités artistiques. Ils peuvent travailler par exemple dans des ateliers de forgerie, d'art plastique ou dans un studio musical. Cette liberté de choisir leur activité artistique est très importante. Les enfants apprennent ainsi à prendre des décisions et à devenir responsables de leur propre vie. Tout cela se reflète, selon Aneta Markova, dans les objets exposés à la maison à la cloche de pierre.
L'exposition illustre d'une certaine façon l'ensemble des activités de l'association Audabiac, mais c'est aussi le résultat du travail créateur des enfants. Au cours des 10 années d'existence de l'association, les enfants ont appris à préparer et ont finalement osé installer eux-mêmes cette exposition. Ils ont donc appris, entre autres, aussi le métier compliqué de commissaire d'exposition.
Parmi les artistes ayant participé à ces ateliers estivaux figure le plasticien Peter Nickel. Celui-ci a beaucoup apprécié la possibilité de pouvoir travailler avec les enfants dans un milieu absolument calme et éloigné de la civilisation. Le séjour à Audabiac lui a laissé une profonde impression.
Audabiac est un petit village en pierre et dans ce village il y a une forteresse où sont logés les participants et qui abrite aussi toute une série d'ateliers artistiques. J'y ai amené des marionnettes, nous y avons fait du théâtre, j'y ai créé une installation avec une caméra obscura. Les enfants ont réagi tout à fait spontanément comme toujours et moi j'ai réagi à leur réaction.
L'exposition « L'art vers la liberté » sera ouverte dans les caves de la maison à la cloche de pierre à Prague jusqu'à fin mai. C'est un prologue à une grande rétrospective interactive internationale intitulée « Le labyrinthe des sens » qui se tiendra de la mi-juin à la mi-septembre à Linz en Autriche. Sur un espace de 6000 m², ils seront réunis, sous la direction artistique de Peter Nickel, toutes les expositions du cycle « Orbis Pictus » inspirées de l'œuvre du grand humaniste tchèque du XVIIe siècle, Jan Amos Komenský Comenius. Dans ce cadre, toute une série d'expositions ont été présentées dans plusieurs pays.
Aujourd'hui, direction, dans cette deuxième partie d'émission, direction Jihlava, pour y visiter la maison où le compositeur Gustav Mahler a vécu pendant 15 ans et qui est aménagée en musée dédié à sa famille, sa femme, Alma, ses parents ainsi qu'à ses proches et amis. Le 18 mai prochain, 101 ans se seront écoulés depuis le décès de ce chef d'orchestre et compositeur de génie, contemporain et ami de Richard Strauss, Gustav Klimt ou encore Franz Kafka. Cette rubrique historique est une rediffusion du 25 mai 2011. Le sujet est proposé par Jarka Gisubelova.
Chapitre de l'histoire.
Gustav Mahler est né le 7 juillet 1860 à Kaliště aux environs de Jihlava, une ville du plateau tchéco-morave. En octobre 1860, la famille avec le nouveau-né s'installe à Jihlava dans la maison située au numéro 4 de l'actuelle rue Znojemská au bas de la place centrale, raconte l'historien d'art et guide au musée Mahler à Jihlava Jakub Komar.
Je to vlastně dům, ve kterém...
C'est dans cette maison et dans la maison adjacente que Gustav Mahler a passé 15 ans de sa vie. Les origines de la maison remontent au XVIe siècle. Néanmoins, c'est au cours d'un remaniement réalisé au début du XIXe siècle, dans le style du classicisme, que le bâtiment a été surélevé d'un étage et orné d'une façade intéressante. Dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de la naissance de Gustav Mahler, en 1960, une plaque commémorative réalisée par le sculpteur Milan Knobloch a été inaugurée sur la façade de la maison.
Le processus d'émancipation des Juifs entamé en 1848 permet à la communauté juive de Bohême et de Moravie d'obtenir la pleine égalité de leurs droits, donc aussi le droit d'habiter dans les villes et d'ouvrir un commerce. Cela change complètement la vie des parents de Gustav Mahler, ainsi que le raconte Jakub Komar.
Bernard Mahler toho využívá a když se Gustav Mahler narodil, tak ve dvou měsících...
Bernard Mahler en profite et deux mois après la naissance de son fils Gustave, il déménage à Jihlava. C'est dans cette maison appelée en mémoire de la famille la maison Mahler. Il installe une distillerie de vin dans l'aile donnant dans la cour et un débit d'alcool au rez-de-chaussée. Les parents de Gustav Mahler, c'était comme le feu et l'eau, comme le disait le compositeur lui-même. Le père était un homme ambitieux, énergique et assertif. La mère, Marie Hermanova, une femme maladive et sensible qui souffrait de dépression après la mort de 8 des 14 enfants du couple. Pour toutes ces raisons, la vie a été assez traumatisante pour Gustav Mahler, du moins pendant son enfance.
Le talent musical de Gustav Mahler se manifeste très tôt. Dès l'âge de 4 ans, il joue de l'accordéon et du piano. Et à 10 ans, il donne son premier concert public. À Jihlava, le jeune Gustav fréquente l'école primaire et le lycée allemand. En 1875, il part étudier au conservatoire de Vienne et fait simultanément des études de philosophie. Après cela, il ne retourne que sporadiquement à Jihlava pour la dernière fois en 1889. Les 15 années passées dans cette ville auront toutefois une influence décisive sur le reste de la vie de l'artiste, souligne notre guide.
Vliv Jihlavy na Gustava Mahlera byl poměrně značný, protože Jihlava byla německý.
Jihlava a beaucoup influencé Gustav Mahler. Jihlava, Iglau, était un petit îlot allemand dans le milieu tchèque, à mi-chemin entre Prague et Vienne. Une importante communauté juive y était implantée. Ainsi, au débit d'alcool de son père, le petit Gustave entendait des chansons juives. Comme Jihlava était une ville de garnison, la musique militaire a également influencé sur sa création, ainsi que la chanson populaire tchèque, dont l'inspiration se fait entendre notamment dans la première symphonie, ainsi que dans ses autres opus, sans oublier la musique liturgique et la musique religieuse juive. En dépit de ses origines juives, Gustav Mahler ne se rendait pas souvent à la synagogue. Attiré par la thématique chrétienne, il aimait aller à l'église Saint-Jacques.
La synagogue n'existe plus aujourd'hui à Jihlava. À son emplacement, un parc avec une statue de Gustav Mahler a été inauguré en 2010 en l'honneur du 150e anniversaire de la naissance du compositeur. La vie à Jihlava, telle qu'elle se présentait au temps de la jeunesse de Gustav Mahler, nous est rapprochée par une exposition thématique au musée Mahler, dans lequel Jakub Komar nous sert de guide.
Náměstí, na kterém se setkávají právě zmíněné tři kultury, které v Jihlavě žijí.
Trois cultures se rencontrent à Jihlava, dans la deuxième moitié du 19e siècle, allemande, juive et tchèque. Auparavant, la culture allemande prédominait. Jihlava était complètement allemande. Néanmoins, après 1848, la culture tchèque s'est imposée, avec le mouvement du réveil national. Face à cette réalité, Gustav Mahler se sent trois fois apatride, comme il le disait, en tant que tchèque parmi les Autrichiens, en tant qu'Autrichien parmi les Allemands, et en tant que juif dans le monde entier qui n'est bienvenu nulle part.
A jako žid na celém světě. Nikde že prý nebyl vítán.
Fixé à Vienne, Gustav Mahler accepte pourtant des offres de venir travailler dans des villes tchèques et moraves. Ainsi, en 1883, il dirige l'orchestre du théâtre municipal de l'Olomouc. En 1885, il obtient à Prague le poste de chef d'orchestre du théâtre allemand. En 1888, il retourne encore à Prague, mais pour un court séjour. Seulement, la première exécution de sa 7e symphonie à Prague donne lieu à une rencontre de ses admirateurs et amis, parmi lesquels des intendants des premières scènes européennes, des chefs d'orchestre et des écrivains pragois de langue allemande, Max Brod et Franz Kafka. Une exposition au troisième étage de la maison Mahler à Jihlava est intitulée Gustav et Alma.
Alma Mahlerová, Rosena Schindlerová, byla takzvanou milenkou umělců.
Alma Mahler, née Schindler, muse et femme fatale, a attiré dans son orbite de nombreux grands artistes. Ainsi, le peintre expressionniste autrichien Oskar Kokoschka figure parmi ceux qui souhaitaient l'épouser. Or, c'est Gustav Mahler qui a fini par l'épouser en 1902. Alma aime la musique et elle est très déçue lorsque son mari l'interdit de composer. Leur mariage est heureux et malheureux à la fois, mais les deux époux se soutiennent réciproquement au cours de leur vie, ce qui n'est pas toujours facile, d'autant que Gustav Mahler était rempli de contradictions. Son âme était partagée entre l'esprit lumineux, la mélancolie et le désespoir suicidaire. Après la mort de leur fille, à l'âge de 5 ans, la crise est inévitable et Alma vit une aventure avec Walter Gropius.
Alma Mahlerová si poté začíná jistý románek s Walterem Gropiem.
Walter Gropius est un architecte, designer et urbaniste allemand, naturalisé américain et fondateur du Bauhaus, mouvement clé de l'art européen de l'entre-deux-guerres. En 1915, il épouse la veuve de Gustav Mahler, Alma. En 1907, après une carrière à Leipzig et à Vienne, Gustav Mahler part à New York pour rester pendant plusieurs saisons le directeur musical du Metropolitan Opera de New York. En dépit de ses succès, l'artiste ne s'adapte pas entièrement au milieu américain et est nostalgique. Mon temps viendra, disait-il, face aux difficultés qu'il rencontrait pour faire accepter ses œuvres. Il faudra un demi-siècle pour que le public mondial accepte le message de ce compositeur de génie.
Z Vídně musí odejít kvůli politické situaci.
Mahler est contraint de quitter Vienne pour des raisons politiques. Pour pouvoir être admis comme directeur de l'opéra de la cour de Vienne, il doit se convertir au christianisme. Il faut dire qu'il le fait de son plein gré. Le christianisme l'attire plus que le judaïsme. Il n'empêche qu'en fin de compte, la conversion n'a aucun sens, car les origines juives de Gustav Mahler s'avèrent être un obstacle insurmontable et il doit quitter Vienne. À New York, où il s'installe, son état de santé se dégrade rapidement et il meurt peu de temps après, en 1911.
On posléze umírá roku 1911.
Transporté malade en Europe et hospitalisé à l'Institut Pasteur à Paris, Gustav Mahler meurt à Vienne le 18 mai 1911 à l'âge de 51 ans. Son ex-épouse Alma ne cessera de promouvoir son œuvre et de veiller sur son héritage. Après son divorce avec Walter Gropius, Alma épouse un autre artiste, Franz Werfel, romancier et dramaturge pragois de langue allemande proche de Franz Kafka ou de Max Brod, des figures de proue de la culture judéo-allemande de Prague. Et c'est à ces personnalités qu'une partie de l'exposition au musée Mahler est consacrée. On y trouve aussi le nom de Josef Hoffmann, architecte né à Brtnice, près de Jihlava. Josef Hoffmann a créé la pierre tombale de son ami Gustav Mahler. La tombe se trouve au cimetière de Grinzing, près de Vienne. Sur la pierre, il n'y a pas d'inscription, sauf le nom du compositeur, ce qui était son souhait. Ceux qui me cherchent savent qui j'étais et les autres ne doivent pas savoir. Les parents de Gustav Mahler sont inhumés au cimetière juif de Jihlava, où ce génie de la musique classique a passé les 15 premières années de sa vie et qu'il a influencé pour le reste de sa vie.
La fin de cette émission en français de Radio Prague. Évidemment, tous ces sujets, retrouvez-les sur notre site internet, le www.radio.cz/fr. Vous le savez, vous pouvez les retrouver sous forme d'articles, en podcast, mais également en streaming. Merci de votre fidélité. Bon vent, ahoy !